Donc, vous voyez, double altérité chez Lévinas, qui est une altérité majeure, et qui n'est pas d'ailleurs dans une relation de type strictement dialogal, même s'il y a des aspects de dialogue, l'altérité du féminin, l'altérité du maître. Et je reviendrai sur la question du maître par la suite. Mais qui sont vraiment les deux altérités fondamentales qui vont après se reporter, puisque l'autre, à la fin, chez Lévinas, va être celui qui commande. Le maître aussi. Donc on verra cela. Je reviens sur la question de la sexualité. Cette altérité du féminin, donc je reviens à cet événement philosophique auquel on assiste, tout d'un coup un homme ne parle plus de l'altérité en général, comme s'il pouvait dépasser et adopter une position transcendantale et totalisante, il parle de l'altérité du féminin. Et donc il avoue, sans l'avouer, parce qu'il ne dit pas « je », vous voyez, qu'il accepte une position distincte, séparée, non totalisable, non totalisante. Cette altérité du féminin ne consiste pas en une extériorité d'objet. La femme, ce n'est pas un simple objet posé devant moi. Et d'ailleurs, le signe de cela, c'est que c'est plutôt, lorsque je suis saisi par le féminin, c'est plutôt presque moi l'objet et elle le sujet. Quand je dis saisi par le féminin, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'avoir simplement un objet, moi quelque chose qui est simplement posé devant et que je domine, d'un regard qui peut inspecter l'objet, d'un regard de sujet qui inspecte un objet. Ce n'est pas possible. Je me sens saisi moi-même, incapable d'objectiver justement l'autre. Sa présence dépassant toujours toutes les objectivations que je peux faire. Et même, elle n'est même pas en simple position d'extériorité parce qu'il y a une sorte de retentissement intérieur de cette présence. Elle n'est pas faite non plus d'une opposition de volonté. Le mystère de l'autre, ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas communiqué. Il n'a pas voulu me dire qui il était, donc il reste mystérieux. Ce n'est pas une cachotterie, ce n'est pas cela. Et ça n'est pas non plus parce que la femme me résiste qu'elle est un mystère. Et donc on n'est pas dans une opposition de volonté. Et on le verra, alors même que la femme s'offrirait, et même précisément au moment où elle s'offre, elle se dérobe. Donc ce n'est pas une relation de savoir, une extériorité d'objet, ni une relation de pouvoir. On reviendra sur ces expressions. C'est une autre relation. Le savoir, c'est un sujet qui connaît un objet. Le pouvoir, c'est ma volonté qui cherche à saisir l'autre et qui pourrait s'emparer de l'autre s'il ne résiste plus. Mais quand bien même ici, il ne résisterait plus, qu'il se déroberait encore. C'est seulement en montrant ce par quoi l'éros diffère de la possession et du pouvoir que nous pouvons admettre une communication dans l'éros. Il n'est ni une lutte, ni une fusion, ni une connaissance. Il faut reconnaître sa place exceptionnelle parmi les relations. Vous voyez, la sexualité c'est une place exceptionnelle. On ne peut pas le ranger comme une espèce de fusion, comme une espèce d'unité, donc comme une espèce de connaissance, ou comme une espèce de lutte. Il n'y a pas un genre supérieur de relation dans lequel on pourrait le subsumer. Il faut reconnaître sa place exceptionnelle parmi les relations, c'est la relation avec l'altérité, avec le mystère, et là écoutez ce point fondamental, ça c'est très important parce que la tendance c'est d'être dans une statique de la contemplation. Alors qu'il y a toujours une dynamique chez Lévinas, avec l'altérité, avec le mystère, c'est-à-dire, ça c'est très juif, l'avenir. Le mystère, c'est l'avenir. L'altérité, c'est l'avenir. Avec ce qui, dans un monde où tout est là, n'est jamais là. N'est jamais entièrement montré, dévoilé dans la lumière. Vous vous souvenez que hier, on vous avait fait cette remarque qu'une des grandes critiques de Heidegger, de la métaphysique, c'est que toute la métaphysique pensait à partir du présent. que être, c'est d'abord l'être actuel, l'être présent. Et Heidegger dit, le destin de la métaphysique, dès lors, a été d'aboutir à la technique. Pourquoi ? Parce que la technique, c'est le Gestell, le dispositif, la mise à disposition de toute chose. L'être, à travers la technologie, à travers nos smartphones, à travers tout ce qui se déploie aujourd'hui, c'est un être conçu comme disponible. Il suffit que j'appuie sur un bouton, il suffit que j'étende à peine la main, sans d'ailleurs avoir à vraiment user de ma main dans un savoir-faire, dans une habileté technique, pour obtenir quelque chose. Donc tout doit être disponible à l'instant même, dans une immédiateté, en fait dans une pseudo-immédiateté, parce qu'il y a la médiation de la technologie, médiation cachée, mais qui nous fait croire que tout est là, disponible. Et vous voyez, cette idée que tout est là, disponible, c'est cette idée que l'essentiel, c'est le présent. Et c'est vrai que la métaphysique, voire même la spiritualité, a été fortement une spiritualité du moment présent. Vous en connaissez, hein? Moi-même, j'ai adhéré pleinement, et je pense qu'il y a encore des traces dans ma pensée, d'affirmation de la primauté du présent sur les autres temps. Etc. Et là, vous avez vu, le rapport à l'altérité, c'est un rapport à l'avenir. Si l'autre n'est pas entièrement donné, si l'autre ne peut pas être saisi dans une sorte de disponibilité totale, de mise à disposition à moi comme un objet, eh bien ça veut dire que je dois entrer dans le temps avec lui. Je dois prendre du temps avec lui. Je dois accepter justement une entrée dans une histoire, dans une aventure commune. Et dès lors, vous voyez, ici, l'affirmation de l'avenir, c'est l'affirmation de l'aventure, advenire, hein, l'aventure de l'altérité. On voudrait que l'autre soit entièrement donné, entièrement présent. Mais si il se retire toujours dans son mystère, cela signifie qu'il n'est jamais entièrement donné, il est toujours là et pas encore là, et donc que le temps va se déployer comme dimension du rapport à l'altérité. C'est pour ça que la sexualité va m'engager dans un type de relation qui est au-delà de ma compréhension, au-delà de mes projets. La sexualité est foncièrement rapport à l'autre sexe, au féminin, comme ouverture à l'avenir. C'est pour ça que le premier grand livre sur la sexualité de Lévinas s'appelle comment ? Le temps et l'autre. Non pas le sexe et le féminin, mais le temps et l'autre. Le temps se déploie comme avenir uniquement à travers la relation à l'autre en tant qu'autre, parce que l'autre en tant qu'autre, c'est celui que je ne peux pas anticiper, c'est celui où je ne peux pas tout prévoir, c'est celui qui m'engage dans une relation où je suis sans cesse excédé dans tout ce que j'avais prévu, dans tout ce que j'avais conçu, dans tout ce que j'avais provisionné même. S'il n'y a plus l'altérité du féminin, s'il n'y a plus la sexualité, il n'y a plus d'avenir. Il y a peut-être un futur, mais ce n'est plus un avenir. Le futur, c'est ce que je projette, vous voyez, ce qui sera à partir de ce qui est, ce que je peux anticiper. L'avenir, c'est ce qui advient. C'est ce qui vient à partir de ce que je n'avais pas anticipé. Vous voyez, le futur, c'est ce qui sera à partir de ce qui est. L'avenir, c'est ce qui sera à partir de ce qui sera. D'où le nom divin, traduit par les Juifs. Le nom divin n'est pas traduit au présent, comme le font ceux qui sont trop marqués par la métaphysique. Je suis celui qui est, ou je suis qui je suis. Ça n'existe pas en hébreu, je suis. On ne peut pas conjuguer le verbe être au présent. On peut dire je qui je. Ça, vous pouvez. Mais « je suis qui je suis », non, ça n'existe pas. Donc, les Juifs, la plupart du temps, traduisent cette parole « je serai qui je serai ». Souvent, ils le traduisent au futur. Et c'est très important parce que, ici, ça montre que le rapport à Dieu n'est pas dans une sorte d'instantanéité, dans ce culte de l'immédiateté présente, mais dans une histoire qui se déploie vers un avenir. Je serai qui je serai, ça veut dire à la fois s'ouvrir à Dieu comme l'avenir absolu et donc comme l'aventure la plus radicale. L'avènement le plus radical. Oui, Jean.
Est-ce que ce fait de connaître dans l'avenir, l'ouverture à l'avenir, ce n'est pas la caractéristique de toute de connaissance de toute chose, en fait, et pas forcément, uniquement dans l'altérité?
Ben, c'est-à-dire que la relation de savoir, c'est quand même une relation où je cherche à comprendre la chose en moi, d'accord, et à me la rendre entièrement présente. Je peux dire que je sais ce que c'est, ultimement, quand je me la rends entièrement présente. Alors, ce que vous pouvez dire, c'est qu'en même temps, ça, voilà, vous pouvez dire, toute connaissance nous livre toujours à de l'inconnu et à de l'incompréhensible. Ça, je suis d'accord. Et à ce moment-là, vous pourriez voir à l'intérieur du savoir même une dynamique qui est tournée vers l'avenir. Mais ça suppose pour cela que j'ai déjà conçu qu'il y avait une altérité de la chose qui fait que ça n'est pas un objet. Vous voyez, alors ça, c'est un point qu'on pourrait trouver chez Heidegger. Heidegger distingue bien l'objet et la chose. La chose est toujours réservée dans quelque chose qui excède toutes mes conceptualisations, toutes mes élaborations, toutes mes mainmises. Voilà. Elle n'est, et en fait, même, la chose est offerte, mais en se donnant, elle se dérobe dans le mystère de sa donation. Donc, il y a toujours un excès de la chose sur tous les objets, sur toutes les facettes que je peux en saisir.
Est-ce qu'on peut imaginer, dire que du point de vue de Dieu, par contre, il y a, c'est dur de se mettre sur Dieu, mais il y a pour Dieu seul, il y a une notion de présent, parce que lui connaît justement.
Oui, on pourrait dire que pour Dieu seul, il y a une notion de présent, et même, vous pourriez dire, chez Dieu seul, en Dieu seul. Dieu seul a une compréhension totale de tout le créé, une totalité, mais attention, parce qu'on pourrait aller vers une théologie, je dirais, musulmane, hein, où Dieu est une sorte de monolithe qui saisit tout, à qui rien n'échappe, etc. Bon, c'est pas faux, hein. Mais n'oubliez pas qu'il y a le mystère trinitaire. C'est-à-dire que Dieu connaît Dieu, la personne du Père connaît toute la création dans le Fils. Et donc aussi dans une altérité. Le mystère trinitaire est un mystère qui n'abolit pas une différence infinie, qu'on pourrait même appeler d'une certaine façon, dans l'unité, dans la consubstantialité la plus absolue, si vous voulez, il y a quand même quelque chose comme une séparation infinie, parce que le Père n'est pas autre chose que le Fils. Le Fils n'est pas autre chose que le Père, mais le Fils est quelqu'un d'autre, malgré tout, que le Père. Et radicalement quelqu'un d'autre, sans être autre chose. Donc, à une position, ici, qui insisterait encore sur un rapport d'altérité, même en Dieu. Mais c'est la pensée trinitaire, vous voyez. Et ça, je dois dire que les théologiens trinitaires n'ont pas encore entièrement essayé, je pense, de ressaisir le mystère de la Trinité à partir des apports de la philosophie de Lévinas. Il y aurait quelque chose vraiment à faire de ce côté-là. Je vous offre des pistes, hein, donc celles qui veulent faire ça, ou ceux qui veulent... Non, celles qui doivent parler d'être caressé. Voilà, phénoménologie de l'être caressé, j'avoue que c'est un peu audacieux, d'abord d'avouer qu'on est en position de caresser et qu'on aime ça, mais qu'on n'aime pas entièrement ça, parce qu'il y a quelque chose dans la caresse qui se joue qui est comme... Voilà, celui qui caresse, la même chose. Il y a aussi quelque chose qui se dérobe. Peut-être l'expérience de mon propre corps. Je crois que l'homme fait l'expérience du corps de la femme comme ce qui se dérobe à jamais, mais la femme fait l'expérience de son propre corps comme ce qui se dérobe à elle. C'est pas pareil. Et dans la caresse, elle l'éprouve, mais bien sûr, dans la maternité, encore plus. Vous voyez ? Il faudrait réfléchir là-dessus. La maternité, les menstruations, enfin tout ça, hein, le corps qui... qui se livre dans une altérité même, son propre corps.